en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, en habit vert a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Jean Rossier, associé étranger à l'Académie des sciences depuis 2002 dans la section biologie humaine et sciences médicales. Jean Rossier, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ici au cœur de l'Institut de France à Paris. Alors vous êtes professeur de biologie à l'ESPCI, École supérieure de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris, directeur de recherche à l'INSERM, fondateur et conseiller de plusieurs sociétés, notamment la Human Frontier Science Programme, l'HFSP de Strasbourg, également conseiller fondateur de l'Human Proteome Organization, UPO, du Functional Genomics European Science Foundation, donc l'ESF de Strasbourg, et puis également membre de la Société française de neurosciences, là où vous êtes toujours membre d'ailleurs. Alors avec vous, Jean Rossier, nous allons pouvoir parler bien sûr de votre carrière qui vous a mené au Collège de France et puis également aux États-Unis. Nous ferons un petit voyage avec vous. Nous parlerons de vos découvertes, notamment de ces fameux peptides opioïdes, hein, on aura compris, opioïdes, opium, également des bêta-carbolines, un sujet fascinant dont vous pourrez nous en parler beaucoup plus en détail. Également des fameuses puces à ADN, où on entre un peu dans le domaine de la science-fiction. Et puis, dans une troisième partie avec vous, Jean Rossier, nous parlerons de la recherche, de l'état actuel de la recherche des chercheurs et de ce qui va se passer pour les générations à venir dans ce domaine. Mais tout d'abord, Jean Rossier, vous qui êtes donc associé étranger à l'Académie des sciences, alors associé étranger parce que vous êtes belge, c'est ça ?
Exactement. Je suis belge et donc l'Académie n'a pas encore suivi les recommandations européennes, à savoir que... Ça pose des problèmes, dirons-nous, de changement des statuts de l'Académie, mais ça va certainement se faire un jour et donc les Européens devraient être membres à part entière de l'Académie des sciences.
Alors, nous allons parler, comme je le disais à l'instant, de votre carrière. Vous êtes, avant d'être professeur de biologie, professeur en médecine.
J'ai jamais été professeur en médecine. J'ai fait des études médicales, j'ai fait un internat, j'ai participé à tout ce qu'on fait dans un internat, à savoir des opérations, des accouchements, remplacer des médecins dans des petits villages. J'ai fait tout ça avec beaucoup d'intérêt, mais la recherche m'intéressait plus que de faire une carrière de médecine générale ou de spécialiste. Le métier de médecin me semblait un peu répétitif, alors que la recherche, c'est tous les jours un monde nouveau qui s'ouvre à vous, on fait des découvertes, on doit apprendre sans arrêt des nouvelles choses. Et donc cette plongée dans l'inconnu me plaisait énormément, et c'est pour ça que j'ai fait cette carrière de chercheur.
On part de Bruxelles, qui est votre lieu d'attache.
Oui, je suis né là, il y a longtemps, en 1944, et j'ai fait toutes mes études de médecine à Bruxelles, et puis c'est à 25 ans, je suis arrivé à Paris pour faire un DEA en neurosciences, et j'ai commencé une carrière de chercheur au Collège de France, c'était dans les années 69-70.
Mais tout le monde n'entre pas au Collège de France en tant que chercheur.
Non.
Vous aviez quand même un beau parcours derrière vous déjà.
Oui, enfin c'est plutôt au culot où j'avais été voir des gens tout à fait éminents et qui m'avaient dit « mais venez au Collège de France ». C'était dans le laboratoire de Jacques Monod, dirigé à l'époque au Collège de France par le professeur Changeux maintenant. Et le professeur Changeux trouvait qu'un médecin dans son laboratoire, c'était pas assez prestigieux, donc il m'a envoyé un peu à l'annexe au Collège de France. C'était un peu considéré comme ça. Mais j'en étais très heureux. Et là, j'ai fait la connaissance donc de mon patron de thèse qui s'appelait Philippe Binda, qui est un neveu de l'écrivain, qui était un psychiatre et qui a toujours fait des choses tout à fait originales avant tout le monde. Mais il arrivait difficilement à mettre tout ça en pratique. Par contre, à côté, il y avait également Jacques Glowinski, qui m'a soutenu durant toute ma carrière au Collège de France, donc pour ma thèse. Et j'étais très heureux. Il était très, très généreux avec moi. Et c'est grâce à lui que j'ai pu terminer ma thèse, en quelque sorte.
Oui. Alors, une thèse qui portait sur quoi ? Puisque finalement, c'est très vaste, hein,
oui.
La biologie.
Alors, la biologie, c'est très vaste. Je m'intéressais déjà au système nerveux. Et c'était sur la molécule, l'enzyme, qui fabrique un neuromédiateur. Donc, ces molécules qui interviennent dans la communication entre les neurones. Et principalement, dans le cadre là, c'est l'acétylcholine qui est libérée à la jonction neuromusculaire, donc entre le nerf et le muscle. muscles, il y a une libération d'acétylcholine. Et pour faire cette molécule d'acétylcholine, il y a une enzyme qui s'appelle la choline acétyltransférase. Et tout mon travail de thèse a consisté à purifier et caractériser cette enzyme. Aujourd'hui, ce type de travail aurait pris 2-3 mois. À l'époque, les techniques faisaient que ça prenait beaucoup plus de temps et qu'il a fallu travailler 5 ans pour faire ce travail.
Et c'est un des plaisirs de la recherche, c'est que les recherches auparavant sont un peu surannées, on avance toujours plus.
On avance toujours, et quand on a fait quelque chose, il est certain que répéter, c'est toujours plus facile. Et donc, lorsqu'on connaît où on va, lorsque vous connaissez votre chemin, c'est plus facile d'arriver plus rapidement au but. Mais les techniques, il faut bien se dire que depuis 70 jusqu'à aujourd'hui, donc ça fait 37 ans maintenant, les techniques que l'on utilise ont complètement changé, et ce qui prenait des années dans les années 70 va prendre parfois 2 jours aujourd'hui.
Vous restez 5 ans au Collège de France, oui, en tant que chercheur au Collège, oui, de France, oui, avant de partir faire votre postdoc, hein, ce qui est un peu la norme, hein, en postdoc, oui, on part à l'étranger. Oui. Vous partez aux États-Unis.
Oui, je suis parti aux États-Unis. J'ai eu cette chance de prendre le Queen Elizabeth pour aller là-bas. J'ai fait ça comme les émigrants, en quelque sorte. Avec l'arrivée à New York, on est trié par les douaniers, les officiers d'immigration. Bon, c'est pas Ellis Island, comme certains de nos auditeurs ont peut-être visité Ellis Island. C'est un endroit très intéressant. On voit l'immigration américaine, Là, c'était plus ce cas-là, et je suis arrivé d'abord un premier contact avec l'Amérique à Boston, où j'ai passé 1 an, à Tufts Medical School, et puis après ce temps-là, j'avais pas trouvé le bon laboratoire, donc on a toujours des possibilités de retomber sur ses pattes.
Vous qui avez choisi le lieu de l'université ?
Oui, c'était moi qui avais choisi le lieu, d'ailleurs contre l'avis de mon patron. Qui était Philippe Binda. Et je dois reconnaître aujourd'hui qu'il avait tout à fait raison. Il m'avait dit, mais Jean, pourquoi est-ce que vous allez dans cette petite université? J'espère qu'il n'y a personne de Tufts Medical School qui écoute maintenant. Mais et pourquoi vous n'allez pas dans les grands laboratoires? Ce que j'ai fait l'année suivante, et donc je suis parti en Californie, avec l'avantage que le climat est différent. Boston, c'est quand même des hivers très rigoureux, des étés très chauds et humides, alors que la Californie, principalement la Californie du Sud, c'est un climat parfait.
Vous étiez en vacances, en fait ?
J'ai passé 2 ans et demi de vacances en Californie du Sud, en travaillant nuit et jour, bien sûr, mais vivant au bord d'une plage, pouvant descendre, essayer de faire du surf, mais la planche de surf, je n'ai jamais réussi à rester plus de 15 secondes dessus. Mais c'était vraiment des vacances au point de vue du climat, c'est vrai.
Et donc, vous êtes resté 2 ans à l'université ?
Je suis resté 2 ans et demi au Salk Institute avec le prix Nobel français, enfin d'origine française, Roger Guillemin, qui est célèbre pour avoir découvert les peptides qu'on appelle hypophysiotropes. C'est des peptides qui sont fabriqués dans le cerveau et qui descendent au niveau de l'hypophyse pour contrôler les sécrétions de cette glande endocrine. Et donc ça, c'était ce travail. Il a eu le prix Nobel à l'époque où j'y étais, donc c'était assez sympathique parce que ça l'avait rendu tout à fait heureux et euphorique. Et on a vécu durant 2 ans dans ce climat merveilleux où il venait de recevoir le prix Nobel. Et puis l'autre associé avec qui je travaillais s'appelait Floyd Bloom. Et Floyd Bloom est un personnage très intéressant de la neuropharmacologie américaine. J'utilise ce mot pour la première fois. Quand je dois me présenter, savoir qu'est-ce que vous êtes, Jean Rossier, je réponds, je suis un neuropharmacologue. Donc je m'intéresse à la pharmacologie du cerveau, comment les médicaments agissent au niveau du cerveau. Et avec Floyd Bloom, nous avons fait énormément de découvertes dans le domaine justement des peptides opioïdes, donc ces morphines endogènes que nous avons dans notre cerveau et qui contrôlent notre humeur, notre douleur, beaucoup de choses.
Et nous aurons l'occasion d'en reparler un peu plus longtemps dans la deuxième partie de l'émission. Vous ne restez pas d'ailleurs aux États-Unis, vous rentrez, ce qui maintenant à l'heure actuelle n'est peut-être pas forcément commun puisque les cerveaux en fait partent, hein, ne reviennent pas forcément en France. Vous revenez.
Oui, je reviens, je passe encore un an dans un autre endroit avec quelqu'un dont je voudrais citer le nom, c'est Sidney Udenfriend, qui est l'inventeur au point de vue technique, et j'insiste souvent là-dessus, l'histoire des sciences est souvent une histoire des techniques, parce que lorsqu'on a un nouvel outil, on peut voir des choses que personne n'a vues avant vous. Et lui a développé ce qu'on appelle l'utilisation de la fluorescence dans les techniques de chimie analytique, il était le premier à pouvoir caractériser la dopamine, dont on parle beaucoup, la noradrénaline, toutes ces catécholamines. Il regrettait beaucoup de ne pas avoir eu le prix Nobel lorsqu'on l'a donné à Axelrod. Il était très malheureux. Mais bon, ça c'est la vie, hein. Et donc j'ai passé un an dans son laboratoire avant de revenir en France. Et pourquoi je suis revenu en France, c'est que à l'époque j'avais deux enfants qui sont d'ailleurs repartis aux États-Unis tous les deux. J'ai mes deux enfants qui font de la recherche aux États-Unis parce que les circonstances en France sont plus délicates et plus difficiles, et ils sont aux États-Unis. Mais à l'époque, je voulais que mes enfants aient une éducation française, et donc on est revenu en France, principalement pour ça, je dirais. Et d'autre part, à l'époque aussi, les conditions de travail pour un jeune qui revenait en France étaient aussi bonnes que si je m'étais installé aux États-Unis tout de suite. C'était début des années 80. Donc je reviens en France et je travaille. J'ai été accueilli à l'époque par Robert Naquet, qui dirigeait un grand centre de recherche à Gif-sur-Yvette. Robert Naquet est celui qui a développé l'utilisation des benzodiazépines. C'est une molécule qui s'appelle, dont le nom courant, c'est le Valium, pour l'épilepsie. C'est le premier qui avait vu ça. Et au grand dam d'ailleurs de la firme qui le commercialisait, parce que du coup, on mettait sur les labels, enfin sur les instructions du médicament, que ça peut traiter l'épilepsie. Alors l'épilepsie, c'est une maladie quand même embêtante que les gens voient mal. C'est le diable qui s'installe chez vous, vous avez un enfant tout à fait calme, et puis tout à coup, il fait une crise d'épilepsie, et vous avez l'impression qu'il est possédé par le démon. Et puis après ça, il redevient tout à fait normal. Eh bien, pour les firmes pharmaceutiques, de dire qu'on a un médicament qui est un médicament, de dire de confort, qui vous diminue votre anxiété, c'était pour cela que les benzodiazépines avaient été d'abord proposées, et dire que ça pouvait également guérir de l'épilepsie, c'était pas tellement bien vu. Et donc il a dû se convaincre le monde et encore aujourd'hui, lorsque vous avez un enfant en état de mal épileptique, donc les crises ne s'arrêtent pas, on fait une injection de Valium ou d'autres benzodiazépines, et à ce moment-là, la crise s'arrête. Et c'est lui qui a découvert cela. Donc c'est lui qui m'a fait venir à Gif-sur-Yvette.
Et puis, donc, à partir de ce moment-là, vous restez de nombreuses années à Gif-sur-Yvette?
Je reste jusqu'en 95 à Gif-sur-Yvette. Donc j'ai passé 15 ans à Gif-sur-Yvette, vivant dans cette banlieue scientifique du sud de Paris, donc à côté d'Orsay, où il y a le CEA, il y a l'université d'Orsay, il y a le grand campus du CNRS. Mais j'avoue que je suis plutôt un Parisien, j'aime quand même plutôt le pavé de Paris, j'aime me promener, j'aime le matin aller au bistrot, prendre le café, je vais dans le même bistrot que Philippe Solers, par exemple, on se voit tous les matins, on ne se dit jamais
Ah, nous
bonjour.
avons un scoop.
Oui, tout à fait, si vous voulez rencontrer Philippe Solers, je peux vous donner l'adresse de mon bistrot, vous le verrez tous les matins. Et donc j'aime cela, donc l'idée de revenir à Paris me plaisait, et à l'époque, Pierre-Gilles de Gennes, directeur de l'école de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris,
Qui était aussi membre de l'Académie des sciences,
qui
hein,
était
pour le
également
coup.
membre de l'Académie des sciences, et qui a eu le prix Nobel en physique pour les cristaux liquides que vous avez, beaucoup d'entre vous ont sur leur montre. Donc, Pierre-Gilles de Gennes voulait que ces ingénieurs qu'il formait dans son école en physique et en chimie, qui avaient déjà une très très bonne formation expérimentale dans ces deux domaines, et que la plupart de nos ingénieurs font une carrière en recherche, 65% de nos étudiants vont faire des thèses. Mais il voulait que la formation de ses étudiants soit plus complète. Et il disait, lui, en tout cas, que si le XXe siècle avait été le siècle de la physique, le XXIe siècle serait le siècle de la biologie. Voilà son point de vue. Donc, il voulait absolument que nos étudiants aient une formation en biologie.
Il vous a donc demandé de venir à l'ESPCI.
Et il m'a demandé de venir créer une chaire de biologie à l'ESPCI, ce qui a été fait. Et donc, ça fait maintenant 13 ans que je
Depuis
suis à l'ESPCI.
1994.
Voilà.
Et puis, donc, de ce fait, vous restez à l'ESPCI depuis ?
Je suis à l'ESPCI depuis. J'ai créé là un laboratoire de neurobiologie où on est une quarantaine de chercheurs avec des techniciens et des aides techniques.
Eh bien, je vous propose de marquer une courte pause, une première courte pause, Jean Rossier. Et on se retrouve tout de suite après pour parler. Et on se retrouve tout de suite après pour parler des découvertes. À tout de suite.
Nicolas Poussin et Orphée, la collection privée de Goethe, la gravure de Louis-René Berge, les méditations sur la beauté de François Cheng, les tableaux de Bernard Buffet, de Velikovitch, les œuvres de Pierre-Yves Trémois, mais aussi le monstrueux dans l'art, ou Bosch et les tentations de Saint-Antoine, Canal Academy vous propose une série d'émissions sur l'art et de réflexions sur la beauté.
Suite de notre émission En habit vert en compagnie de Jean Rossier, associé étranger à l'Académie des sciences, professeur de biologie. Avec vous, Jean Rossier, dans cette deuxième partie, nous allons parler des découvertes que vous avez faites. Elles sont nombreuses. On va en parler de quatre ou cinq, celles qui vous semblent les plus intéressantes, les plus importantes, même si elles le sont toutes, hein, bien sûr. On va parler de termes un peu barbares. Hein. Peptides, opioïdes, bêta-carboline, et puis aussi de polyglutamylation.
Oui.
Vous allez pouvoir nous dire
je
tout
vais
ça.
Essayer.
Voilà, vous allez pouvoir nous expliquer plus en détail. C'est vrai que pour des novices comme moi, hein, il faut faire un peu de recherche sur Internet pour comprendre à quoi ça correspond. Peut-être pourrions-nous parler des peptides opioïdes, puisque vous en avez parlé au cours de cette première partie d'émission, en tout cas des peptides.
Dans les années 70, il y a tout un courant où on commence à faire de la pharmacologie moléculaire. C'est-à-dire que pendant longtemps, lorsqu'on avait un médicament, on savait qu'il agissait, on ne savait pas vraiment comment il agissait. Les molécules qu'on appelle les récepteurs sur lesquels se fixe tout médicament n'étaient pas encore caractérisées très bien. Il y avait la façon de faire les choses, c'était de regarder, par exemple, si un muscle se contractait lorsqu'on mettait une molécule et on regardait si, avec une autre molécule, on pouvait antagoniser, bloquer l'effet de la première molécule. Mais on ne connaissait pas les mécanismes intimes de ces actions, donc un médicament agissait sur un récepteur, mais il était présenté comme quelque chose, une entité théorique. Et avec Jean-Pierre Changeux, principalement, je dois dire, qui est membre également de notre académie, Jean-Pierre Changeux était un des premiers qui a caractérisé ce qu'on a appelé le récepteur à l'acétylcholine. C'est le récepteur nicotinique, parce que la nicotine se fixe sur ce récepteur et va provoquer la contraction de vos muscles. Et cette molécule a été caractérisée, c'est un édifice macromoléculaire qui est très compliqué, mais qui, ce récepteur, c'est un espèce de tuyau en quelque sorte. Ce tuyau est généralement fermé, et lorsque la nicotine vient se mettre sur ce tuyau, eh bien ce tuyau s'ouvre et on a le contact entre le milieu intérieur de la cellule et le milieu extérieur de la cellule, et ce qui va se passer, c'est des ions de sodium qui vont rentrer dans la cellule. J'arrête là ces explications moléculaires. Mais l'idée d'avoir des molécules complexes qui appartiennent à la cellule, qui sont parties de la membrane de la cellule, et que ces molécules puissent interagir avec des molécules extérieures qui flottent dehors, ça c'était quelque chose de nouveau. Et comme on avait découvert le récepteur pour la morphine, on s'est dit, est-ce qu'il n'existe pas également ce qu'on appelle nous des ligands, des molécules extérieures qui vont se fixer sur ce récepteur à la morphine et qui vont avoir toutes les propriétés qu'on donne aux morphiniques, à savoir antidouleur, possibilité de se mettre à rêver et bien sûr les possibilités plus embêtantes de toxicomanie lorsque vous vous mettez à abuser de ces substances. Donc l'idée au départ a été, s'il y a des récepteurs, est-ce que dans le corps, on ne va pas fabriquer des morphines endogènes ? Et ça, c'est deux Anglais, Hughes et Kosterlitz, qui ont découvert les premières molécules endogènes, les premiers peptides opioïdes qui étaient des morphines endogènes. Et ça, c'était dans les années 73. Et à ce moment-là, je suis arrivé au Salk Institute et on a commencé à en chercher d'autres. Et nous avons caractérisé avec Floyd Bloom et Roger Guillemin plusieurs de ces peptides endogène, parce qu'il n'y avait pas un seul, il y en avait plusieurs différents. Et ça a été les premiers travaux que j'ai faits dans mon postdoc au Salk Institute, c'était de caractériser des nouvelles molécules qui se fixaient à ces récepteurs endogènes. On fabrique notre propre antidouleur. Donc ça, c'est la première découverte qui avait été faite, mais on n'en fabrique pas seulement un seul, on en fabrique plusieurs différents qui vont agir également sur des récepteurs différents. Parce que la pharmacologie moléculaire qui a permis de caractériser un premier type de récepteur, ce qu'on voyait, c'est qu'il y avait d'autres molécules qui ressemblaient à cela. C'est toute une habitude dans le domaine de la génétique. Lorsqu'on trouve une molécule, on trouve d'autres molécules qui ressemblent et qui ont des fonctions généralement assez proches, mais quand même différentes. Donc il y a une redondance des systèmes et il y a également un nombre de ligands endogènes, un nombre de morphines endogènes qui vont se mettre sur ces récepteurs. Voilà le travail qui a été fait dans les années 70. Et donc c'était de montrer qu'il y avait plusieurs systèmes utilisant ces peptides endogènes.
Et ce sont justement donc ces antidouleurs qui vont se développer à quel moment ? C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une douleur, automatiquement notre corps va produire un antidouleur ?
Ça va intervenir à plusieurs niveaux. Le contrôle de la douleur est quelque chose de complexe qui commence au niveau de la moelle, donc la moelle épinière. Puis ça va, il y a plusieurs relais. Et donc une douleur, lorsqu'elle est ressentie, il y a la douleur directe où vous coupez le doigt et vous sentez la douleur directement. Ça va remonter au niveau de votre cerveau, mais également ça va rester au niveau de la moelle épinière. Vous allez retirer votre main lorsque, par exemple, vous brûlez ou vous coupez. Puis après ça, il y a les douleurs longues, persistantes, qui vont être traitées par votre cortex cérébral et qu'il faut également pouvoir supprimer. La douleur rhumatismale, par exemple, est très pénible. Et donc, à ce moment-là, il faut utiliser des antidouleurs également qui vont agir à divers niveaux, au niveau périphérique et également au niveau central.
Et alors, cette antidouleur naturelle intervient à quel moment ?
Il intervient au niveau de la moelle épinière. Là, il y a ce qu'on appelle des neurones qui fabriquent ces encéphalines, ces peptides opioïdes. Mais ça agit également au niveau du système nerveux central, donc dans votre tête, où il y a des neurones qui vont fabriquer ce qu'on appelle des bêta-endorphines. Ces molécules, donc ces peptides opioïdes, s'appellent également endorphines. Et il y a des endroits du cerveau que nous avons caractérisés avec Floyd Bloom où, lorsqu'on met des électrodes pour stimuler cet endroit du cerveau, on va provoquer la libération de ces bêta-endorphines dans le cerveau et ça va s'accompagner d'une disparition de la douleur.
Ça, c'est des disparition totale.
Disparition totale de la douleur, oui, c'est vrai, dans le cas présent. Mais ça veut dire que vous allez mettre des électrodes dans le cerveau d'un être humain, qu'il va se stimuler lui-même, et ça pose des problèmes éthiques certains. Est-ce que vraiment il faut faire des choses pareilles ? C'est un peu compliqué.
Donc ça, c'était aux États-Unis, dans les années 70,
oui.
75, 76 à peu près. La deuxième découverte, c'est les bêta-carbolines, à votre retour en France.
Oui, c'est mon retour en France, c'est dans le laboratoire donc de physiologie nerveuse dirigé par Robert Naquet. Et il y avait l'avantage à Gif-sur-Yvette qu'il y avait également Pierre Potier. Pierre Potier, médaille d'or du CNRS, qui était membre de notre académie, qui est mort l'année dernière, et qui est l'inventeur de médicaments anticancéreux. Mais dans son laboratoire, il avait des chimistes et lorsqu'il a vu apparaître la première description d'une autre molécule qui va se fixer sur un récepteur, ce sont les bêta-carbolines, non génériques de ces molécules, ce sont en fait des molécules qui vont se fixer sur le récepteur des benzodiazépines. Je parlais déjà de ces molécules, ce sont les anxiolytiques, ce sont également des anti-épileptiques. Et dans le cerveau, il y a un système de récepteurs qu'on appelle le récepteur GABA. Le récepteur GABA, c'est toute l'inhibition. Le cerveau, c'est, si on veut le résumer, c'est très simple, c'est soit de l'excitation, soit de l'inhibition. Et il y a deux grandes catégories de molécules. Il y a les molécules qui font de l'excitation et des molécules qui font de l'inhibition. Et les molécules qui font de l'inhibition, c'est ce qu'on appelle le GABA. Alors, on peut augmenter l'activité de ces récepteurs GABA grâce à des molécules telles les benzodiazépines qui vont faciliter cette inhibition. Donc vous voyez bien qu'une épilepsie, c'est beaucoup d'excitation, donc il faudrait pouvoir répondre par plus d'inhibition, et donc les molécules, les benzodiazépines, vont augmenter l'efficacité de l'inhibition, vont augmenter l'efficacité du GABA. Donc vous allez augmenter l'inhibition et... Dans le cas présent d'une crise d'épilepsie qui est due à cet emballement de votre cerveau, de l'excitation, vous allez augmenter l'inhibition pour arrêter cette crise d'épilepsie. Alors dans le cas présent, les bêta-carbolines au départ n'avaient pas été proposées comme étant des anti-épileptiques ou des pro-épileptiques facilitant l'épilepsie. Les bêta-carbolines ont été caractérisées parce qu'elles se liaient aux récepteurs des benzodiazépines. On ne savait pas encore à l'époque que c'était le GABA et les benzodiazépines, tout ça, c'était D'accord. un peu la même chose. C'était la même molécule qui a plusieurs sites. Toujours est-il que, avec cette idée précédente, je vous ai parlé il y a 5 minutes, des peptides endogènes, des opiacés endogènes, donc des endorphines, ces endorphines se lient sur des récepteurs, eh bien, les bêta-carbolines ont été isolées à partir d'extraits d'urine humaine au départ, et se liaient sur ces récepteurs aux benzodiazépines. Et par analogie, les chercheurs qui ont découvert cela ont pensé que ces bêta-carbolines étaient des ligands endogènes du récepteur GABA-benzodiazépine. Appelons-le récepteur GABA-benzodiazépine. Et en fait, on s'est aperçu que, bon, il n'existe pas ce type de molécule. Normalement, ils avaient été formés par les processus d'isolement de l'urine humaine qui avait été utilisée. Donc, il n'existe pas. Mais le fait d'avoir ces bêta-carbolines qui avaient été caractérisées, on a pensé au départ que comme ça se liait au récepteur des benzodiazépines, on avait l'antiépileptique ou la molécule qui allait bloquer l'anxiété endogène, qu'on l'avait fabriquée. C'était également l'analogue de ces peptides endogènes qui bloquent, qui travaillent comme la morphine, qu'on avait un nouveau ligand endogène qui allait provoquer... faire disparaître l'anxiété. C'était ça le départ.
J'avais également favorisé l'apprentissage de la mémoire.
Ça va avec parce que le système GABA est un système inhibiteur et donc vous diminuez l'excitation dans le cerveau. Et on peut, par analogie, dire s'il y a trop d'inhibition, vous n'allez plus apprendre grand-chose.
Ça favorise la concentration, en d'autres termes. C'est encore différent.
C'est encore différent. Je ne vais pas rentrer dans les processus d'apprentissage et de mémoire. Il y a des phases d'apprentissage, il y a des phases de consolidation. En fait, ce qu'on a vu avec les bêta-carbolines, d'abord, ça avait l'effet inverse des benzodiazépines. Ce sont ce qu'on appelle des agonistes inverses qui ont exactement l'effet opposé. Donc, au lieu, on s'attendait à ce que les bêta-carbolines bloque les épilepsies, bloque l'apparition de crises d'anxiété. Et en fait, on a découvert l'inverse. On a vu que ces molécules qui se fixaient sur le récepteur GABA-benzodiazépine allaient avoir un effet inverse et allaient diminuer l'efficacité de ce récepteur. Ça, c'est les découvertes qu'on a faites à l'époque.
Alors, ça revient à la mode, justement. En préparant cette émission, vous m'aviez dit que les bêta-carbolines revenait à la mode.
Tout à fait, parce que quand vous prenez des doses importantes de benzodiazépines, vous n'arrivez plus à apprendre.
En d'autres termes, de Valium, en gros.
Du Valium. Si vous prenez des grandes quantités de Valium et que vous faites quelque chose après avoir pris des grandes quantités de Valium, vous ne vous rappellerez absolument pas ce que vous avez fait. Donc, ce qu'on appelle l'effet amnésiant des benzodiazépines, donc amnésique, pour oublier, est réel. Et donc, comme nous avions découvert que les bêta-carbolines avaient des propriétés opposées à celles des ligands type benzodiazépine, que ces molécules étaient anxiogènes et qu'également elles étaient épileptiques, nous nous sommes dit, est-ce que ces molécules ne vont pas avoir l'effet opposé des benzodiazépines et faciliter l'apprentissage? Et en effet, c'est ce que nous avons observé à l'époque, mais évidemment avec cette difficulté, comme ces molécules à faible dose facilitaient l'apprentissage, à plus forte dose, elles étaient anxiogènes, et à encore plus forte dose, elles provoquaient des crises d'épilepsie. Et donc, il était exclu de pouvoir les utiliser en clinique. Par contre, depuis quelques années, on a découvert qu'il n'y avait pas un seul type de récepteur GABA-benzodiazépine, mais qu'il y avait plusieurs types de ces récepteurs et que certains de ces récepteurs étaient spécifiquement rattachés aux tâches d'apprentissage et de mémoire. Pour le jargon, c'est la sous-unité qu'on appelle alpha-5 qui est responsable de cela. Et donc, on a des études cliniques qui n'ont pas encore été terminées maintenant, qui ont été faites par des firmes pharmaceutiques en Angleterre, qui montrent qu'il est possible avec certaines molécules qui ne sont ni anxiogènes ni provoquant des crises d'épilepsie, que ces molécules-là renforcent les performances d'animaux dans des tâches d'apprentissage et de mémoire, et également chez l'homme. Et donc, il y a tout un courant à l'heure actuelle pour voir si ces molécules ne pourraient pas être utilisées dans le cas des déficits mnésiques chez l'homme.
Autre que les maladies neurodégénératives, des maladies...
Ça peut être dans les cas justement de maladies neurodégénératives, type Alzheimer, ça c'est la première indication qui pourrait être proposée. Ça peut être également dans le cas d'autres maladies où on a un déficit des performances en apprentissage et en mémoire.
Donc les industriels attendent avec
fébrilité. Oui et non, pas tellement, parce que c'est quand même un domaine très difficile. Et pour l'instant, on verra. Mais pour l'instant, donc, il y avait une firme pharmaceutique qui avait fait un grand programme là-dessus. Ils ont arrêté pour l'instant.
Alors, avant d'arriver à notre deuxième pause, je parlais d'un terme un peu barbare, la polyglutamylation et la polyglycylation. À quoi ça correspond?
Alors ça, c'est de la chimie des protéines. Les protéines, vous avez trois grands types de molécules, de polymères en biologie. Il y a les acides nucléiques, c'est l'ADN. Vous avez les sucres et vous avez les protéines. Et donc, ce qui se passe, c'est que lorsque vous avez la synthèse d'une protéine, vous allez prendre l'information qui est sous forme d'ADN, qui va être transformée sous forme d'ARN messager, qui vont être traduits en protéines. Alors ça, c'est donc, on est dans la chimie des protéines. Les protéines qui sont fabriquées au niveau de la machinerie cellulaire, ce qu'on appelle le ribosome, eh bien, ces protéines qui sortent de cette machinerie vont subir ce qu'on appelle des modifications post-traductionnelles. Donc, on va rajouter d'autres molécules sur le squelette de la protéine. Et nous avons en effet été les premiers à caractériser qu'il y avait des bouts de polyglutamylation. Le glutamyl, c'est un résidu d'un acide aminé qui est répété plusieurs fois quand c'est poly, et que ceci peut se rajouter à la protéine de départ. Également, une polyglycylation, c'est le plus simple des acides aminés, la glycine, et on peut en mettre plusieurs, jusqu'à une quarantaine, qui sont rajoutés à la protéine de départ. Donc, c'est vraiment de la chimie des protéines où on a les premiers caractérisé cela sur une molécule importante qui s'appelle la tubuline. Ce sont des molécules qui vont former les tubules dans les cellules. Quand les cellules se divisent, il va y avoir tout un système qui va se former pour faire cette division cellulaire avec des microtubules qui vont tirer les chromosomes d'une part et d'autre pour partir d'une cellule en faire deux.
Et quand vous disiez justement, nous avons découvert, c'était au moment où vous étiez au laboratoire à Gif-sur-Yvette.
C'était à Gif-sur-Yvette avec Jean-Pierre Lecaer, André Hadout, toutes les équipes de Gif-sur-Yvette ont été associées à ça, et également deux chercheurs de l'équipe de François Gros, Bernard Hédé, et de Noulet.
On marque une seconde courte pause, Jean Rossier, et on se retrouve après pour parler de puces à ADN, et puis bien sûr pour parler, on l'avait évoqué au tout début de l'émission, de la recherche et de l'état actuel de la recherche. C'est un sujet qui vous tient à cœur. On en parle tout de suite après. À tout de suite. Thank you. De notre émission En habit vert, toujours en compagnie de Jean Rossier, toujours également membre associé étranger de l'Académie des sciences, professeur en biologie. Avec vous dans cette troisième partie, Jean Rossier, nous allons pouvoir parler des puces ADN qui fait partie aussi des découvertes que vous avez menées. Découverte très récente, 97, enfin découverte en tout cas invention, parce que je pense que là c'est plus du domaine de l'invention que de la découverte. Nous parlerons également de la recherche, de l'état actuel de la recherche en France, peut-être aussi à l'étranger si éventuellement on fait une comparaison, mais auparavant, parlons de ces puces à ADN où nous entrons un peu dans le domaine de la science-fiction.
Les biopuces, c'est tout un système qui permet d'augmenter le nombre d'informations obtenues lors d'une seule expérience. La puce, comme les puces électroniques, c'est petit, ça a quelques, au maximum un centimètre de côté, et donc c'est un petit carré, comme celles qui sont sous vos cartes de crédit. Et l'idée, c'est de pouvoir faire toute la chimie que l'on fait dans des systèmes complexes, avec des tubes, de faire non plus cela comme dans un laboratoire, mais de faire tout ça directement sur la puce. Ça se rapproche de ce qu'on raconte aujourd'hui sur les nanotechnologies. C'est l'idée de diminuer le volume général du système et de tout faire dans un espace aussi confiné que possible. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est de pouvoir caractériser énormément de variables en même temps. L'idée, c'est de pouvoir regarder sur une puce vos 25 000 gènes, de savoir à un moment donné quels sont les gènes que vous utilisez. Ça, c'est le principe de la puce à ADN, c'est de regarder à un moment donné les gènes qui sont utilisés sur les 25 000 qui sont votre patrimoine génétique. Alors ça s'applique à tous les tissus que l'on peut analyser en biologie, en neuropharmacologie en particulier pour moi. Et nous avons développé ça avec Marie-Claude Potier, qui est dans mon laboratoire, depuis 1997. Et ça permet d'avoir énormément d'informations sur une seule expérience. Donc vous allez regarder les 25 000 gènes de l'individu, savoir si l'individu, à ce moment précis, va utiliser quel gène. Et donc, c'était inimaginable avant. C'était inimaginable de regarder 25 000 variables dans une seule expérience. C'est ça le grand changement d'échelle, où, lorsque j'ai commencé ma thèse, on regardait une seule variable. Et on la regardait au cours du temps, et on avait une dizaine de points expérimentaux. Aujourd'hui, on va avoir 25 000 points que l'on va analyser en même temps. Et donc, à ce moment-là, l'esprit humain n'est pas capable de regarder toute cette information à la fois. Et on utilise énormément les systèmes d'informatique, les analyses complexes. Et donc, tous ces systèmes d'analyse complexes, comme par exemple aujourd'hui de prévoir le temps qu'il va faire, ce sont des analyses très complexes où on a énormément de données, on a la température partout sur la Terre. Et grâce à cela, on arrive à dire bah, demain, il va pleuvoir ou il ne va pas pleuvoir à Paris. Eh bien, c'est un peu la même chose avec ces informations sur les puces à ADN. On est multifactoriel, on regarde
L'ensemble
des dizaines de milliers de paramètres à la fois, et on essaye d'en ressortir quelque chose qui nous permet de trouver des nouvelles choses. Donc en fait, on est là pour essayer de découvrir des choses inattendues, qu'on n'attendait pas, et ça donne à ce moment-là la possibilité de faire de nouvelles hypothèses pour essayer de comprendre mieux comment fonctionne le cerveau en particulier.
Alors justement, si vous dites qu'on peut découvrir de nouvelles choses, je suppose que vous en avez découvert de nouvelles choses depuis 1997, grâce à ce système de biopuces.
On a appliqué ça au laboratoire sur les maladies de la trisomie, donc le mongolisme, et on essaye de comprendre comment le fait d'avoir un chromosome, un petit chromosome, le chromosome 21, qui est en trois copies, donc normalement vous avez deux fois de l'information, là vous avez trois fois l'information sur 300 gènes, et que cela perturbe profondément l'individu. et on essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe. Il y a des compensations qui se font, il y en a d'autres qui ne se font pas, et c'est l'ensemble de ces 300 gènes qui sont là en trois copies, alors que normalement ils sont en deux copies, qui provoquent la maladie. Et donc on essaie de comprendre les phénomènes qui s'enchaînent les uns derrière les autres lorsqu'il y a ces gènes qui sont trop exprimés.
Vous travaillez sur des maladies exclusivement génétiques ?
Là, ce sont des maladies génétiques, mais dans le cadre de l'expression des gènes, lorsque le cerveau se met en place ou quand le cerveau, vous savez que le cerveau est très plastique et change sans arrêt, on essaye également à ce moment-là de regarder l'évolution des gènes au cours d'un traitement, au cours d'un apprentissage, au cours du temps, au cours de l'établissement du cerveau. Et donc, c'est tout ça que l'on peut regarder avec ces puces à ADN. Donc, on a énormément d'informations et on essaye de trouver les informations qui nous semblent pertinentes. Et de plus en plus, on se rend compte qu'avec cette avalanche d'informations que l'on obtient assez rapidement, dirons-nous, par cette nouvelle technique, il est essentiel d'avoir derrière des bioinformaticiens, des gens qui analysent les données. Et donc, on est exactement comme les météorologues aujourd'hui, qui ont énormément de données, qui doivent en faire quelque chose qui soit utile et pouvoir comprendre comment le système se met en place.
En même temps, ça doit être un bonheur de pouvoir avancer aussi rapidement. Ça a dû être un accélérateur, mais en même temps, vous deviez être noyé sous le flot d'informations, puisque c'est comme si c'était plusieurs ordinateurs comme ça qu'on vous donnait avec toutes les données, tous les disques durs avec.
Je dirais que c'est la difficulté de cette biologie, ce qu'on appelle systémique, où on regarde tout à la fois. Cette biologie systémique permet donc de voir énormément de paramètres, des dizaines de milliers de paramètres, mais on n'a pas encore aujourd'hui les outils suffisants pour pouvoir en tirer le meilleur parti, dirons-nous. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde les programmes, ne fût-ce que d'analyse des génomes, le génome est connu, eh bien, on a les 25 000 gènes, mais il y a toutes les parties qui sont entre ces gènes, et on voit que de plus en plus d'informations sont cachées ailleurs, et depuis 10 ans qu'on connaît la séquence complète du génome humain, on découvre tous les jours d'autres facteurs de régulation, et on voit que l'organisation de ces gènes au sein des 3 milliards de bases qui constituent notre génome, que tout ça est bien plus complexe qu'on ne pensait, et c'est la science actuelle, c'est d'essayer de décrypter à quoi servent les gènes. Ça, c'est une première chose, mais à quoi sert également tout ce qu'il y a entre les gènes. Et peut-être que ces parties qui sont entre les gènes sont tout aussi importantes. C'est quand même 95% du génome n'est pas sous les formes de gènes qu'on connaît aujourd'hui. Donc, on doit essayer de comprendre ce qui se passe. Et donc, il y a encore du travail pour beaucoup de générations.
L'ARN, en fait, c'est ça qui enveloppe, c'est l'enveloppe.
L'ADN est constitué de ce qu'on appelle des séquences codantes pour des gènes, mais entre ces gènes, il y a également d'autres parties d'ADN qu'on a, à une époque, appelé l'ADN égoïste. On pensait qu'il ne servait à rien ou qu'il ne servait que pour lui-même. Et on se rend compte que cet ADN égoïste, en fait, fait énormément de choses. Et on voit que, justement, avec les puces à ADN, lorsqu'on veut regarder tout ce qui est transcrit, donc on a le génome qui va être transcrit en ARN, qui va être, après ça être traduit en protéines, mais tout l'ADN pour finir est transcrit et on ne sait absolument pas à quoi servent tous ces ARN qui sont fabriqués. Et tout ça, c'est une question d'actualité où dans les dernières semaines, il y avait des numéros spéciaux dans les revues scientifiques telle nature.
Justement, venons-en à la recherche. Vous qui travaillez justement dans une école, l'École supérieure de physique et de chimie, quel constat vous faites ? Et je sais que vous vouliez en parler quand même, parce que c'est quelque chose qui vous tient pas à cœur. Qu'est-ce que vous préconisez ?
D'abord, il faut en faire. D'abord, je pense que la recherche est de faire des études longues avec une thèse. C'est essentiel pour former un individu, pour qu'il comprenne comment fonctionne la recherche d'abord, mais également c'est une école de vie où le jour où vous démarrez votre thèse, où on vous pose un problème, où vous trouvez un problème et vous voulez pouvoir le résoudre. Et donc ça va vous prendre 3 ans, 4 ans et vous aurez votre thèse après ça. Mais l'avantage de ce moment, c'est que vous avez au départ tous les éléments, enfin, vous devriez avoir au départ tous les éléments pour apporter une réponse. Et donc, c'est un travail individuel, mais que vous faites également dans un groupe, avec d'autres personnes qui vous aident. Et donc, je pense que c'est tout à fait formateur, comme d'écrire un roman, ou comme d'écrire une thèse d'histoire, d'analyser quelque chose en science. On crée quelque chose, on apporte, on essaye d'apporter de nouvelles idées, ou de mieux comprendre un mécanisme, ou de fabriquer quelque chose de nouveau. Alors ça, je crois que c'est d'abord une formation extraordinairement enrichissante de faire ça. Je crois que ce qui est également important, c'est d'avoir des chercheurs qui aient été formés à la recherche, qui après ça pourront faire autre chose. Mais je pense que cette étape de formation par la recherche est essentielle et permet de développer l'individu pour toute sa vie. Donc, je pense que je conseille à tout le monde de faire une thèse s'il en a les moyens. Ça, c'est sûr.
Mais vous savez mieux que moi, c'est que pour faire une thèse, bien sûr, les places sont limitées, les places sont chères.
Non, pas tellement, pour finir. C'est-à-dire que certainement aujourd'hui, il y a beaucoup moins d'excellents candidats qu'il n'y avait il y a une quinzaine d'années. Les esprits sont un peu tristes, on a l'impression que la carrière de chercheur n'est pas une carrière noble, et donc il y a moins de gens de bonne qualité qui se destinent à la recherche. Je ne m'en donnerai que comme exemple dans les grandes écoles. Dans les grandes écoles, nous sommes une école particulière, je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait 65% de nos étudiants qui finissaient par faire une thèse. À l'école polytechnique, qui est une école un petit peu bâtie sur le même principe, c'est quand même le motto de l'école polytechnique, c'est pour la patrie, la science et la gloire. Donc la science est importante et il y a une quinzaine de pourcents des étudiants de l'école polytechnique qui finissent par faire une thèse. Dans les autres écoles d'ingénieurs, c'est beaucoup plus faible, c'est de l'ordre de 5% et encore. Et donc ce que l'on voit, c'est que je dirais que l'État pourrait donner l'exemple. L'État a ce qu'on appelle les grands corps. Les grands corps techniques de l'État, par exemple, qui vont aux mines, aux ponts, aux télécoms, etc. Les grands corps techniques de l'État, ils n'exigent pas de thèse du tout, plutôt de faire une thèse et pas un plus, dirons-nous. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, lorsqu'on a mis sur pied le système européen 3-5-8, donc licence en 3 ans, maîtrise en 5 ans,
master DEA
et thèse en 8 ans, je pense que les grands corps de l'État français, donc les tout hauts fonctionnaires techniques français, on pourrait leur demander d'avoir une thèse. Comme ça, au moins, l'État aura montré l'exemple. Il faut dire qu'également dans les grandes entreprises maintenant, lorsqu'on est engagé à l'international, on vous demande d'avoir une thèse. L'équivalent de la thèse, c'est le PhD dans le monde entier. Et donc, on ne va pas demander à quelqu'un d'avoir seulement son diplôme d'école d'ingénieur. On lui dira, vous devez avoir une thèse dans une discipline quelconque. Et donc, je pense que d'augmenter le nombre de thèses est important et qu'il faut le faire. Et il faut avoir une politique. Là, c'est des politiques à long terme. Hein. C'est pas, on ne va pas doubler le nombre de thèses du jour au lendemain. Non, il faut le faire d'une façon progressive parce qu'il faut que dans chacun des laboratoires, que chaque responsable d'équipe forme des thésards. Et il faut avoir un rapport entre un chercheur qui est déjà ou un professeur d'université qui fait de la recherche, d'avoir à côté de lui quelqu'un qui fait une thèse. Je crois que c'est essentiel pour les deux. D'une part, il y a le professeur qui peut guider un étudiant, et d'autre part, il y a le jeune qui va donner un souffle de vie nouveau au professeur. Donc je crois que c'est essentiel d'avoir un nombre de thésards aussi important que possible.
Et quant à la fuite des cerveaux de nos chercheurs qui partent à l'étranger parce qu'il n'y a pas forcément de place ici, ou alors après 10 ans d'études, se retrouvent avec un salaire qui n'est pas en rapport avec leur nombre d'études réalisées, quel regard vous portez là-dessus?
Un peu iconoclastique, je dirais. Je pense que c'est pas parce qu'on a fait 10 ans d'études qu'on doit gagner 10 fois plus. Voilà, ça c'est la première chose. Je pense que l'intérêt du travail, et puis on peut dire qu'une thèse, c'est pas une formation dure en plus, c'est simplement de faire un projet. On est payé durant ce temps-là, peut-être mal, je suis d'accord avec vous, que là, on pourrait certainement revaloriser les allocations de thèse, et c'est d'ailleurs ce qui est prévu pour l'instant. Mais je pense que le fait d'avoir fait cet exercice, de faire de la recherche durant un temps limité pour faire autre chose après, serait tout à fait valable, parce que c'est une formation personnelle tout à fait essentielle. Alors, vous me dites, tu n'auras peut-être pas assez de moyens. Je crois qu'il est certain que le nombre de thésards a diminué ces dernières années. Alors que dans la plupart des pays du monde, il augmente. Il augmente aux États-Unis, mais d'ailleurs, on a un petit peu la même chose aux États-Unis, c'est que le nombre de thésards qui sont nés aux États-Unis diminue avec le temps et que les thèses aux États-Unis sont faites plutôt par des étrangers.
Eh bien, je vous remercie, Jean Rossier, de nous avoir accordé cette émission, une heure en votre compagnie, un habit vert. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes associé étranger à l'Académie des sciences, que vous êtes professeur en biologie à l'ESPCI, École supérieure de physique et de chimie de la ville de Paris. J'invite nos auditeurs à aller faire un tour sur vos collègues, vos confrères, sur les autres habits verts que nous avons déjà enregistrés ici à Canal Académie. Et puis, bien sûr, je les invite à aller faire un tour sur le site internet de l'ESPCI où ils pourront trouver votre CV complet, Jean Rossier. Merci beaucoup et puis peut-être à bientôt pour une prochaine émission. Merci.
Merci, madame.